Carnet de santé, Muriel Salmona. 6 podcasts hors série présentés par Marina Carrère d'Encausse.
Ce qui est assez brutal et violent, c'est que quand les souvenirs reviennent, c'est que les émotions en fait aussi reviennent. C'est comme si j'étais violée une deuxième fois. C'est comme si je revivais vraiment le viol, dans le sens où même les sensations, en fait, je les revis.
Épisode 3. Quand les souvenirs reviennent.
Incapacité totale ou partielle à se souvenir d'événements vécus, des événements traumatiques qui confrontent à la mort et entraînent un stress extrême. L'amnésie traumatique, c'est ça dont on parle, concerne 40% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance, près de 50% des victimes d'inceste. Elle peut durer jusqu'à 40 ans et même plus longtemps dans 1% des cas. D'où la question des délais de prescription quand la victime veut porter plainte, une fois ses souvenirs revenus. Question sur laquelle nous reviendrons dans un prochain épisode. Mais est-il utile que cette amnésie s'arrête? Quand et comment les souvenirs reviennent-ils? Est-ce de manière spontanée ou dans le cadre d'une thérapie? On en parle avec Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Alors on l'a dit, cette amnésie peut durer des dizaines d'années. Est-ce que cette durée est liée à certains critères de l'agression notamment?
Oui, ça on sait qu'elle dure d'autant plus longtemps que les victimes étaient plus jeune et que ça a eu lieu à l'intérieur de la famille, que c'est incestueux, que ça a été répété pendant de longues années, ou que les victimes ont un gros handicap mental ou neurodéveloppemental. Donc ça, on sait que tous ces éléments-là interagissent beaucoup. Et puis aussi, la succession d'agressions va aggraver, c'est-à-dire plus les victimes subissent à nouveau des violences, plus ça aggrave le trauma, plus ça peut aggraver la dissociation, plus ça peut aggraver aussi l'amnésie traumatique. Ce qu'il faut savoir quand même, juste je le redis, c'est que cette amnésie traumatique dissociative, on la retrouve dans tous les grands traumas. Elle avait été très bien décrite avec les victimes de la Shoah, par exemple. Donc plus de 50% des victimes pouvaient avoir une amnésie traumatique dissociative, particulièrement de l'arrivée dans le camp. Où souvent c'était un blackout complet pendant plusieurs semaines. Enfin, c'est pas spécifique aux violences sexuelles.
Les victimes d'attentats, par exemple.
Les victimes d'attentats, voilà, au Bataclan. Moi, je prends en charge des victimes des attentats du Bataclan et des cafés. Elles ont des amnésies traumatiques dissociatives. Donc, ça touche tout le monde. Alors, ces amnésies traumatiques dissociatives, enfin, en tout cas, la dissociation traumatique et les amnésies traumatiques dissociatives qui souvent vont avec, durent tout le temps où la victime, comme on l'a déjà dit, est exposée à une situation de danger. Donc, soit parce qu'elle est exposée directement à l'agresseur, comme à l'intérieur de sa famille, ou à des personnes qui ont participé à l'agression. Là, par exemple, moi, c'est ma mère, en l'occurrence. Voilà. Mais ça peut être aussi le contexte, le lieu, la chambre, l'endroit. Parfois, vous savez, il y a des victimes qui vont avoir des souvenirs qui vont remonter. Enfin, c'est pas les souvenirs qui remontent, les souvenirs qui deviennent émotionnels quand ils vont quitter le pays, par exemple, qui vont aller dans un autre pays ou quitter un endroit, quand des membres de la famille vont décéder, ou on sait que fréquemment, c'est pour ça que ça a posé problème avec les délais de prescription, c'est fréquemment au moment où on voit beaucoup moins sa famille, on a fondé par exemple sa propre famille, et qu'on est éloigné de sa propre famille pour différentes raisons, que d'un seul coup les choses remontent. C'est que quand on est enfin protégé, ou qu'on déménage par rapport à la situation où on était toujours là. Par exemple, des victimes du Bataclan, c'est vraiment, ça les a beaucoup améliorés de quitter Paris, par exemple, tout simplement, de plus être dans le contexte parisien où ça s'est produit. Donc, aussitôt que la personne est enfin en sécurité, là, la dissociation peut se lever. En même temps que la dissociation se lève, l'amnésie traumatique dissociative se lève en même temps. Et à ce moment-là, le moindre lien qui rappelle les violences sexuelles peut créer un allumage de mémoire traumatique émotionnelle où on revit à l'identique avec les mêmes émotions, les mêmes douleurs, les mêmes sensations.
Ce qu'on n'a pas ressenti en fait depuis l'agression.
Voilà. Où on avait des films, on avait des choses dans la tête, mais on n'avait pas les émotions qui allaient avec. Et d'un seul coup, ça fait un tsunami émotionnel avec des sensations de mort imminente, de crise d'angoisse terrible, de douleur qui peuvent vous mener aux urgences. tellement c'est impressionnant, surtout que la personne est en état de stress extrême, donc elle a des constantes biologiques qui sont très inquiétantes, enfin je veux dire, parce qu'elle a un taux d'adrénaline, cortisol au plafond, donc parfois les gens comme ça peuvent être opérés en urgence, on comprend pas, ils ont un syndrome abdominal, on comprend pas pourquoi, et puis ils peuvent avoir des sensations sur leur corps, des voix qu'elles vont entendre, des cris, tout ça va revenir.
Mais tout peut revenir d'un coup dans la totalité comme ça?
Oui, alors tout peut être possible. Ça peut être vraiment le film entier, enfin la situation entière de ce qui s'est passé qui va revenir hanter les victimes, qu'elles me décrivent ou elles revivent l'événement, ou ça peut être une partie seulement, une sensation. Ça peut aussi se traduire par des phobies. Phobie d'entrer dans une pièce. Moi, j'avais une patiente comme ça. Elle ne pouvait pas rentrer dans une pièce où il y avait un réfrigérateur. Le bruit du réfrigérateur, c'était totalement intolérable. Elle avait l'impression qu'elle allait mourir si elle rentrait dans la pièce. Alors, ça paraissait complètement dingue, quoi. Mm-hmm. En fait, à l'âge de 7 ans, elle avait été violée contre un réfrigérateur dans un hôtel. Après, tout s'explique, vous voyez. Mais ça peut être aussi des phobies d'impulsion où on est en train de changer un enfant alors qu'on a subi des violences sexuelles tout petit. Et puis, d'un seul coup, on a des images qui viennent. On a les émotions de l'agresseur qui vous réenvahissent avec une volonté de nuire, une excitation perverse qu'on peut prendre pour soi et avoir une peur épouvantable
de faire du mal.
Les
gens qui sont envahis par les sentiments, les sensations de l'agresseur.
De l'agresseur, parce que c'est ça le problème de la mémoire traumatique, c'est qu'elle mélange tout. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée, elle n'est pas décryptée, elle n'est pas séparée. La mémoire traumatique de la victime n'est pas séparée de l'agresseur ou de témoin, etc. Tout est mélangé. Donc en fait, la victime, elle peut, par exemple, regarder un film, on en parlait tout à l'heure, où il y a un viol à la télé, et avoir une sorte d'excitation perverse qui monte. Et ça la rend folle, quoi. Mais en même temps, une angoisse terrible. Donc, elle a l'angoisse terrible, la douleur terrible de la victime, mais elle a l'excitation perverse et la volonté de nuire de l'agresseur qui sont mélangées. C'est horrible.
On va justement écouter Asia, qui témoignait sur France Culture dans le podcast Les Pieds sur Terre, oublié pour survivre. Elle a fait une amnésie de 12 ans après un viol, et un jour, c'est devant un film qui traite du sujet dans lequel il y avait effectivement un viol, que tout a ressurgi. Écoutez-la.
J'étais vraiment une forme de détresse que je n'arrivais pas à définir. Enfin, en fait, c'est comme si j'étais, je sais pas, au bord d'une falaise et je m'approchais de plus en plus du bord. J'avais envie de crier, de pleurer, mais il n'y a rien qui sortait. Et du coup, c'est comme si j'avais tout ce capharnaüm d'émotions à l'intérieur de moi-même, mais il n'y avait rien qui arrivait à sortir.
C'est ça, oui, hein, c'est un capharnaüm, effectivement. Et tout est mélangé, et du coup, c'est incompréhensible. Voilà, c'est incompréhensible. Et ça va être toute, après, la logique du traitement pour pouvoir séparer les choses.
Mais là. Mais on mesure le danger qu'il y a, effectivement. Tout d'un coup, est-ce que ce brouillard commence à se défaire?
Oui, alors ça peut prendre la forme quasiment d'une bouffée délirante. C'est-à-dire les gens peuvent se retrouver hospitalisés pour bouffée délirante, mis sous neuroleptique ou considérés comme schizophrènes. Les gens peuvent avoir l'impression qu'on est rentré dans leur chambre. Enfin, ils peuvent avoir une sorte de délire, d'hallucination, dans un cas d'un délire de persécution, alors que c'est simplement de la mémoire traumatique. Donc ça peut être vraiment impressionnant. Et puis, toutes les victimes disent, elles ont peur de devenir folles, quoi. Et puis elles ont peur d'être des monstres, puisqu'il y a l'agresseur et la mémoire traumatique de l'agresseur qui est en train de hurler. Elles ont un sentiment de culpabilité effarant, parce qu'il y a toutes les phrases culpabilisatrices de l'agresseur. Elles ont le sentiment qu'elles ne valent rien. Il peut y avoir un risque suicidaire aussi important à ce moment-là, parce que si l'agresseur a voulu les tuer, s'il les a étranglés, qui les laissait quasiment pour mortes ou les a menacées de mort, elles peuvent être envahies par le fait de la volonté de les tuer de l'agresseur et la nécessité de mourir, parce que c'est lui qui veut qu'on meure. Et souvent, mes patientes comme ça qui font des tentatives de suicide à répétition, quand on leur pose la question, quand je les vois, je leur pose la question, mais est-ce que vous voulez mourir ou est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez? Et elles me disent, je pense que je dois mourir, c'est pas je veux mourir, je dois mourir, comme le voulait l'agresseur. Voilà. Et puis, c'est la culpabilité, le mépris, je suis rien, je vaux rien, je suis, voilà, c'est tout ça qui remonte et la vie devient un terrain miné. C'est ça, la mémoire traumatique qui s'allume, la vie devient un terrain miné parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on met le pied, si on va dans cet endroit, si on lit ce livre-là, on va parler avec quelqu'un, tout peut se passer. Si on se met à penser, ça peut être terrible. Donc les gens peuvent s'empêcher de penser pour essayer d'éviter que ça surgisse.
Mais on peut clairement quand même se demander s'il y a vraiment un intérêt pour toutes les victimes, hein, je dis les femmes parce qu'elles sont plus fréquentes que les hommes, mais bien sûr les hommes aussi, à ce que finalement cette amnésie se lève.
Alors, on peut donner un exemple tout simple par rapport à la douleur. Si vous avez aucune douleur, alors que vous avez, je sais pas, vous faites une torsion de verre, vous avez une grossesse extra-utérine, vous n'avez pas de douleur, vous allez mourir, sûrement. Si vous avez des douleurs, c'est atroce les douleurs, mais ça permet tout de suite... C'est un signe d'alerte et ça permet d'être protégé, ça permet de pouvoir traiter le problème. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que tant que la personne est dissociée et tout ça, le plus souvent elle n'est pas protégée, elle est à grand risque de subir plein de violences, de mourir précocement. Et aussitôt que la mémoire traumatique s'allume, c'est vrai que ça peut être vraiment dangereux sur le moment, mais au moins ça alerte tout le monde. Enfin, je veux dire, on voit que la personne est en très grande souffrance. Elle était déjà en très grande souffrance avant, mais ça se voyait pas. D'un seul coup, ça se voit. Alors au départ, c'est le capharnaüm dont elle parle.
Elle utilise le bon mot.
Et c'est là où c'est vraiment très important de donner plein d'explications, de dire ce que c'est que la mémoire traumatique, que non, mais c'est normal que vous êtes en train de revivre quelque chose, que ça, c'est les odeurs que vous avez eues, que ce bruit-là, ça a fait démarrer la mémoire traumatique pour telle raison. Et on essaie de décrypter quand ça s'est allumé, pourquoi ça s'est allumé. Bah oui, parce que ça rappelle la scène. C'est-à-dire, l'incohérence apparente devient tout de suite très cohérente si on commence à comprendre qu'est-ce qui a fait que la mémoire traumatique s'est allumée.
Et puis quand même, ça permet effectivement, de se dire que les crises de panique qu'on a pu avoir avec ces sensations de mort imminente, la claustrophobie, la peur d'être enfermé, les sensations d'étouffement, les images de violence sexuelle, tout ça, en fait, on n'est pas fou.
On n'est pas fou. Alors, au départ, on peut penser qu'on...
C'est ça.
Mais si on commence à comprendre qu'il s'agit d'une mémoire traumatique et que c'est relié à des violences qui deviennent de petit à petit, parce que ça se met en place... Ça met du temps, hein. Au départ, des flashbacks, des cauchemars, des sensations qui surgissent comme ça, comme des hallucinations. Et puis petit à petit, il y a le scénario qui commence à se mettre en place. Donc ça devient de plus en plus précis, en fait. On commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis là où c'est vraiment très important que cette mémoire traumatique émotionnelle revienne, c'est que les victimes, elles se protègent à ce moment-là. Et donc elles vont éviter de se retrouver en situation. Alors dans un premier temps, elles peuvent se protéger avec des conduites d'évitement, des conduites phobiques, tout ça, et que ça c'est très positif. Mais le problème, on va le voir, c'est que si elles sont pas du tout prises en charge, si on leur explique pas ce qui se passe, comme elles peuvent pas se protéger complètement, elles vont quand même avoir une mémoire traumatique qui va s'allumer dans certaines situations. Et à ce moment-là, elles vont devoir trouver des stratégies pour anesthésier à nouveau cette mémoire traumatique, pour se dissocier à nouveau, parce que c'est insupportable.
Mais c'est là les conduites addictives, les automutilations, les scarifications, etc.
En fait, alors c'est facile à comprendre. En fait, soit on éteint les émotions avec de l'alcool, de la drogue à haut niveau, soit on va éteindre les émotions en recréant un trauma, en se mettant en danger, en se scarifiant, en exerçant des violences contre soi ou en se mettant en danger face à autrui. Et là, on va de nouveau créer un trauma avec de nouveau une dissociation. Mais en fait, on va se dissocier au prix d'un trauma supplémentaire. Et malheureusement, une des façons de se dissocier qui est très efficace, c'est d'exercer des violences contre autrui. La plupart des victimes vont exercer des violences contre elles-mêmes, mais aussi certains vont exercer des violences contre autrui. Ça, on en reparlera. Mais ça, si les personnes se mettent à avoir des conduites dissociantes, c'est bien parce qu'elles ne sont pas prises en charge, qu'elles n'ont pas d'informations, qu'elles ne savent pas ce qui leur arrive, qu'on ne leur vient pas en aide, qu'on les laisse seules et abandonnées. Hein. C'est 83% des victimes qui disent qu'elles n'ont jamais été protégées ni prises en compte et que leur trauma n'a pas été pris en compte. Et dans une société où le psychotrauma n'est pas encore reconnu comme il devrait l'être, comme un problème de santé publique majeur et une nécessité urgente à traiter. Et puis à traiter sans dissocier à nouveau, parce que le problème, c'est que souvent, quand les victimes, elles ont comme ça une souffrance extrême, alors chez les enfants, ça peut prendre la forme de troubles du comportement, ils cassent tout, ou ils sont terrifiés, ils se cachent, enfin, ils ont plein de troubles du comportement qui font qu'ils sont difficiles à supporter. Bah, la solution qui souvent peut être apportée, ça va être de traiter le symptôme de la souffrance, uniquement, et d'anesthésier cette souffrance avec des médicaments, voire avec des violences. Hein, parce que quand quelqu'un est très très agité et que vous le contrôlez complètement, il va se calmer. Mais il ne va pas se calmer pour les bonnes raisons. Il va se calmer parce que vous exercez une violence contre lui, vous l'enfermez dans une chambre d'isolement. Donc, en fait, la société répond souvent à ces symptômes par des réponses totalement inappropriées par méconnaissance et qui vont aggraver le système. Donc, c'est une chance que cette mémoire traumatique s'allume parce qu'en fait, on va redécouvrir sa vérité, on va pouvoir se comprendre, on va pouvoir restaurer petit à petit son estime de soi, on va pouvoir remettre en lien tout ce qui s'est passé, on va pouvoir aussi possiblement la porter plainte, se rendre justice et rendre justice aux victimes. Enfin, on peut leur rendre justice et puis protéger possiblement aussi d'autres victimes.
Vous qui avez été donc victime, vous aviez 6 ans, vous avez eu ces méthodes de protection dangereuses finalement pour vous-même ?
Alors, moi, j'étais plutôt dans les conduites d'évitement et de contrôle de tout mon environnement. J'ai plutôt été, mais j'ai eu quand même. En fait, j'étais vraiment, j'avais en tête plein de conduites possiblement hyper dangereuses pour moi, mais que je devais contrôler continuellement. C'est-à-dire, j'ai mis en place un contrôle parce que j'avais tendance à possiblement. Mais j'ai eu, par exemple, des conduites d'automutilation, des choses comme ça. J'ai eu une période où j'en ai eu. J'ai pas eu du tout de conduite addictive parce que là, franchement, avec mon père qui est mort à 48 ans...
Qui était alcoolique.
Voilà, oui. Donc, j'ai eu aucune conduite addictive de cet ordre-là. Mais j'ai toujours été à la marge. Je me suis jamais mise réellement en danger. Enfin, pas complètement, mais... Et c'est moi, je privilégie pour mes patients, tout de suite, je privilégie les conduites d'évitement. C'est-à-dire, les conduites d'évitement sont à privilégier. Mais on est dans une société où, surtout sur les enfants, les adolescents, il faut avancer dans la vie, il faut s'exposer, c'est bien, etc. Et où on valorise plus la dissociation que l'émotion.
On disait ce phénomène de mémoire traumatique, amnésie traumatique, dissociation, ça a été décrit au départ pour les soldats victimes de la guerre. Vous dites effectivement, les études l'ont montré aussi pour les victimes de la Shoah. C'est étudié chez les victimes de violences sexuelles. Cette notion, elle a été longtemps contestée. Elle l'est toujours par certains. C'est un combat que vous avez mené au début. On disait quand même que vous exagériez.
Oui, tout à fait. C'est ce que Salter, c'est un criminologue australien, il utilise le terme d'anti-épistémologie, c'est-à-dire qu'on a toutes les preuves scientifiques, mais on continue à dire que non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne
Pourquoi
veut pas. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça arrange bien tout le monde que les gens soient dissociés, franchement, et en amnésie traumatique. Ça arrange bien pas mal de gens qui sont en position dominante et qui utilisent la violence. Parce que bon, là, on parle de violence sexuelle, mais il y a toute forme de violence. Les inégalités, la discrimination, la violence s'exerce toujours sur les personnes les plus vulnérables. Et elle a besoin, pour être dominante, elle a besoin d'exercer quand même une certaine forme de violence pour pouvoir justement créer cette inégalité-là. Donc, prendre en compte le psychotrauma, c'était aussi rendre justice à plein de victimes qui étaient essentiellement des femmes ou des personnes en situation de discrimination, des personnes dominées. Et que c'était des personnes justement à qui on n'accordait pas suffisamment de valeur, en fait. Ou même les enfants, hein, je veux dire. En fait, pendant longtemps, on n'a pas reconnu la douleur, leur douleur. Donc du coup, à part les vétérans du Vietnam, et encore, la plupart des vétérans...
Mais parce que
quand
les vétérans du Vietnam posaient un problème quand même majeur à la société.
Oui, ils posaient un problème majeur à la société, mais ils ont été quand même bien maltraités aussi, hein, malgré tout. Et puis, vous savez que lors de la Première Guerre mondiale, il y avait une technique qui avait été employée, qui était ce qu'on appelait la torpille. C'est-à-dire qu'on passait du courant électrique, on choquait avec du courant électrique les personnes pour les calmer. On a utilisé donc le psychotrauma, c'est rendre justice, c'est révéler les violences, c'est du coup révéler aussi les agresseurs dans un monde qui a pas tellement envie de voir la réalité de ce qui se passe, quoi. Donc et puis je vous dis, les victimes, c'est essentiellement des personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui, d'autant plus si elles sont victimes Elles sont déjà victimes parce qu'elles sont en situation de vulnérabilité, mais les violences vont aggraver les situations de vulnérabilité. Pareil pour le handicap, hein. Les personnes en situation de handicap partout.
Oui, c'est ça, parce qu'on en parle peu, on parle beaucoup des femmes et des enfants, mais les personnes en situation de handicap qui sont encore plus invisibles sont très vulnérables.
Très vulnérables. Les enfants placés sont très vulnérables. Les personnes, par exemple, le handicap neurodéveloppemental, ce qu'on appelle l'autisme, c'est 90% des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Enfin, c'est effarant, hein. Mais les enfants placés, toutes les personnes marginalisées, toutes ces personnes-là vont subir un maximum de violences liées à une société quand même très inégalitaire et qui, si elle tient à garder des privilèges, etc., bah, le psychotrauma, c'est pas très, très, très intéressant à traiter.
Quand on voit la souffrance de cette mémoire enfouie, le risque de conséquences psychotraumatiques à ces crimes, on mesure l'importance d'une prise en charge et d'une prise en charge compétente. Quand doit-elle avoir lieu? Qui peut la faire? Devant quels troubles? Des techniques comme l'EMDR ou l'hypnose peuvent-elles être utiles? On en parle dans le prochain épisode.
Carnet de santé, un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.